Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Lundi 31 octobre, bonne journée, bienvenue au 98.5. Alors, je le disais, très spécial aujourd'hui, jour 1. Je pense qu'on est tous un peu à la même place. Il y a des gens qui ont gardé leur routine, donc qui ont modifié leur plan de match. Beaucoup sont encore en télétravail, c'est particulièrement vrai le lundi. Et on va aller, je pense, on peut aller voir avec Marc tout de suite. Non, il est pas là, bon, ben, vous me direz quand il sera là éventuellement. Mais tout ça pour vous dire donc qu'il faut s'ajuster ce matin, puis voir un peu comment ça va aller. D'abord, quand on a vu à la une de la presse en samedi que Mobilité Montréal, les leaders politiques s'étaient pas réunis depuis plusieurs années, vous comprendrez que j'étais pas vraiment surpris. Robert Poitiers, à l'époque ministre des Transports, nous avait dit la patente était en dormance et il y a rien qui se passait. Je comprends que les leaders politiques de Québec, de Montréal, du Grand Montréal, sont pas dans le fin détail de l'opération. Mais que ces gens-là prennent pas le temps de s'asseoir, de se parler, alors qu'on amorce une période quand même de 3 ans avec des perturbations dans les habitudes des automobilistes puis des camionneurs. C'est renversant. Et ce matin, je vous invite, si vous avez le temps, d'aller voir l'espèce d'organigramme qui se trouve dans le Journal de Montréal, où vous voyez qui sont les joueurs qui interviennent à un moment ou à un autre dans la prolifération des chantiers à Montréal. Ça peut bien être confus. T'sais, en fin de semaine, on connaissait un certain nombre d'enjeux sur les traversées vers la rive sud. S'ajoute un tournage sur le pont Champlain. T'sais, puis là, après ça, on me dit, ouais, mais Paul, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils ont prévu des stationnements incitatifs, ils ont rajouté des wagons de métro, il y a des circuits additionnels. On a reçu M. Séguin vendredi, qui est le sous-ministre responsable. Je comprends tout ça, là. Mais est-ce qu'on peut au moins admettre que depuis les dernières semaines, il y a certains constats qu'on peut faire? Premièrement, un problème assez important de communication sur quels sont les services additionnels. C'est pas clair pour bien des gens. Et non seulement c'est pas clair, mais je vais vous donner un exemple ce matin qui va illustrer probablement ce que beaucoup de travailleurs à cette heure-ci pensent. Je commence à travailler à 6h30 le matin à Saint-Laurent. J'habite à Saint-Hubert sur la rive sud. Je dois arriver au travail pour 6h15. Le premier train est à 6h09. Donc, beaucoup trop tard pour moi. En bus et métro, c'est à peu près impossible. Les autobus sont sur le quart de nuit jusqu'à 6 heures. Bref, j'ai pas le choix. Et mon employeur ne peut pas modifier mon horaire. Et j'ai l'impression que souvent des mesures sont mises en place pour des gens qui font du 8 à 4, du 9 à 5. Pourtant, dès 5h45 le matin, il y a beaucoup de monde sur la route direction Montréal. Et ça aurait été quand même plus agréable si on avait pu devancer des départs dès 5h ou 5h30 pour les trains et pour le métro. Ça, c'est un exemple. Même chose pour des stationnements incitatifs qui sont pris d'assaut. Est-ce que les navettes vont être capables de se faufiler dans le tunnel? C'est ce que M. Séguin nous disait. Il y a plein de points d'interrogation, mais d'abord, on me dit qu'on est finalement en mesure d'établir le contact avec Marc. Alors, Marc, est-ce qu'on a déjà une bonne attente au tunnel?
Ouais, présentement, vers Montréal, c'est plutôt bien, là, secteur industriel, mais je m'y attendais, là, parce qu'il y a 2 voies pour traverser vers Montréal et c'est un réseau d'autoroutes. Par contre, en direction au sud, bien évidemment, avec la configuration à une seule voie, là, je peux constater que c'est congestionné sur la 25 depuis minimum le secteur de l'échangeur Anjou. Et c'est clair, là, que ça va empirer au cours des prochaines minutes. Présentement, on a stabilisé l'hélicoptère. sur la, au-dessus de la 132, pas très loin du tunnel, mais entre le tunnel et le pont Jacques-Cartier. J'essaie de voir au loin s'il y a des répercussions pour Jacques-Cartier. Pour l'instant, ça me semble une très bonne option. Là. J'invite les auditeurs à se rendre de ce côté-là. Ça risque d'être plus facile, au moins pour les prochaines minutes. On va faire la grande tournée. Le point de vue ici est évidemment très bon. C'est moi, Paul, qui ai le meilleur moyen de transport pour traverser entre la Rive-Sud et Montréal ce matin.
Ça, c'est sûr, mais c'est surtout, je pense, en après-midi, Marc, qu'on va avoir un certain nombre de problèmes, là.
Ouais, évidemment, avec la période de l'Halloween, là, c'est une des pires journées de l'année historiquement. Les gens veulent partir tôt pour revenir à la maison, aller passer faire la tournée des bonbons avec les enfants. Alors généralement, c'est déjà fort occupé. Je parie là qu'en direction de la rive sud, il va y avoir beaucoup de débordements du côté de Montréal. Effectivement, cet après-midi, je m'attends que ce soit encore pire.
Parfait, on va se reparler tantôt. Parfait, et on peut compléter avec quelques éléments additionnels. D'abord, quand je dis un problème de communication, est-ce que c'est normal que la semaine dernière, le président de la Chambre de commerce se lève en disant « Ben là, on devrait interdire l'auto sur l'eau. » Le premier ministre du Québec dit « Ben, on va donner l'exemple dans le télétravail. » Remarquez qu'il y a encore beaucoup de zones grises de ce côté-là. Puis il y a même le Parti québécois qui disait « On va rendre gratuit le transport collectif dans l'est de Montréal pour que les gens laissent l'auto de côté. » On comprend tous qu'idéalement, on prend pas l'auto. Puis là, ce matin, c'est un petit peu sournois parce que là, vous allez vous dire, ben c'est pas si mal. Il y a moins de monde. Il me semble que les traversées à cette heure-ci sont pas si pires. Ça va ressembler à quoi plus tard? Moi, si j'ai un conseil à vous donner, quand arrive ce type d'événement, annoncé quand même à l'avance, les gens prennent un pas de recul et observent. Et plus la semaine va avancer, plus on va voir davantage la nature de la bête. Est-ce que les gens vont vraiment changer leurs habitudes, prendre plus de trains, d'autobus, de déplacements donc collectifs comme ça, peut-être. Mais quand on va se retrouver avec les premières gouttes de pluie, puis quand on va se retrouver avec les premiers flocons de neige, ça risque d'être un petit peu et même beaucoup différent. Alors, c'est le topo ce matin, ça commence pas si pire. Là, les gens sont en mode observation, puis on va vous donner comme ça je dirais des observations tout au cours de la matinée. Puis je rappelle, on parle beaucoup des autos là, mais il y a bien des gens qui se déplacent en camion. Puis on parlait tantôt justement avec un camionneur qui est en déplacement puis qui lui est payé au voyage, fait qu'il sait très bien qu'il va perdre de l'argent dans toute cette opération parce que ça va être plus lent et il va devoir finalement peut-être travailler plus d'heures pour le même montant. Les autres nouvelles de ce matin. Je veux revenir sur cette enquête du Journal de Montréal. On comprend que c'est pas hyper sophistiqué, là, mais il y a quand même une conclusion concernant le prix des fruits et légumes. Quand tu regardes des produits entre Métro et la fruiterie 4,40, un sac de raisin rouge qui se vend chez Métro 9,42 puis à la fruiterie 4,82, deux sacs de radis identiques. Je les regarde, là, sont pareils, c'est le même fabricant, c'est le même format. 2,49 $ chez Métro, fruiterie 4,40, 1,49 $. Un chou à peu près de même taille, de 4,86 à 2,62 $. Et les exemples sont nombreux. Puis des pommes de terre qui coûtent plus cher chez Métro. C'est toujours plus cher chez Métro. Là, tu te dis, mais comment ça se fait que c'est plus cher chez Métro? Là, d'abord, paraît-il que c'est connu d'à peu près tous les joueurs de l'alimentation, que des fruiteries peuvent profiter d'un rabais de dernière minute alors que les grandes chaînes, compte tenu des quantités achetées, vont négocier des ententes annuelles. Mais justement, comment ça se fait qu'on n'en profite pas plus? Et là, je regarde ça ce matin, puis est-ce que quelqu'un pourrait me donner une bonne raison d'acheter des légumes puis des fruits chez Métro? Si l'écart est aussi important, est-ce que ça vaut le déplacement d'aller à la fruiterie en question? Puis peut-être pas toutes les fruiteries, peut-être pas tous les produits. Alors, j'avoue que j'ai été un peu troublé par ça. Parce que t'as toujours l'impression, qui dit grande surface, dit meilleur prix. Ben, c'est visiblement pas le cas, là. Deuxième chose dans ce dossier-là, notre ami Charlebois de l'Université Dalhousie qui dit que il y a peut-être un joueur, une bannière, une chaîne qui a peut-être profité plus que les autres de la montée inflationniste. Quand les prix du panier d'épicerie sont partis à la hausse, est-ce que quelqu'un en a profité? c'est vrai qu'il y avait des augmentations réelles, mais jusqu'à quel point il n'y a pas des bannières qui ont gonflé leurs profits? Les pétrolières l'ont bien fait, là. Alors, pourquoi pas le secteur de l'alimentation? Et il y a, j'allais dire, cette enquête, c'est un bien grand mot, disons, cette recherche, cette étude du Bureau de la concurrence pour voir s'il y a eu des profits abusifs durant cette période parce qu'il y a des joueurs qui ont fixé des prix dans le marché. Alors, je peux pas vous le dire, on va en reparler tantôt, mais j'avoue que je suis un peu étonné de ça, de voir les différences de prix. Puis savez-vous quoi? Même si c'est pas là hyper scientifique dans le sens que tu as un échantillon précis, là, mais ça donne quand même une bonne idée. Et ça vient renforcer notre sentiment de se faire avoir par les supermarchés. Tu dis, est-ce que je suis pas en train de me faire... Puis qui en profite plus qu'on pense dans la situation actuelle. Alors ça, c'était une enquête menée par le Journal de Montréal. Puis en même temps, on apprend ce matin que le nombre de demandeurs d'asile provenant du Mexique est en explosion au Canada. Pourquoi? Ben, ce sont des gens qui veulent fuir souvent un climat extrêmement violent, qui veulent aussi se trouver un emploi, qui veulent refaire leur vie. Et dans ce reportage de Radio-Canada, c'est intéressant de voir leur volonté. D'un côté, des gens qui disent, je vais l'apprendre le français, je vais me trouver une formation, je veux travailler. Et c'est l'objectif. C'est toujours plus compliqué quand ils arrivent, là. Mais souvent, ils descendent de l'avion, puis dès leur arrivée en sol canadien, et la plupart d'entre eux passent par l'aéroport Trudeau, demandent donc ce statut d'asile, puis souhaitent vouloir travailler. On va regarder aussi quelques nouvelles à l'extérieur, donc du Canada, des nouvelles à l'étranger. D'abord, au Brésil, l'extrême droite vient de se faire sortir, c'est le retour de la gauche, mais quand même moins triomphal que ce qu'on avait peut-être prévu. Alors que le président élu, le président da Silva, Lula, qui est allé chercher 51% des voix environ et 49% pour Bolsonaro, le chef de l'extrême droite, qui, pas vérifié dans les dernières minutes, mais n'aurait toujours pas concédé la victoire. Et on sait que dès le départ, un peu à la Trump, il a dit, pas très confiance dans le système de vote, convaincu qu'il va y avoir des erreurs. Je sais qu'il y a eu des manifestations hier au Brésil, notamment dans le centre du pays, des gens qui contestent le résultat, donc des partisans du président. Et pour da Silva, ben, c'est un retour. Il a été pendant quelques années président du pays. Il a été par la suite condamné dans une affaire de corruption. Il a fait plus de 500 jours de prison. Et finalement, puis vous allez voir que c'est assez subtil, on l'a sorti de prison en disant que le juge avait tenu des propos biaisés, que la décision était teintée, mais on n'a jamais dit que le système de corruption n'avait pas existé et qu'on l'a quand même permis de se présenter à l'élection et d'être élu. Hier, il dit, il est temps, après ce virage de l'extrême droite, ces 700 000 personnes décédées pendant la pandémie, la violence qui s'est accrue au Brésil, de se tourner vers des solutions plus humaines. Et dit-il, je serai le président de l'ensemble des Brésiliens. Également, je ne sais pas si vous avez vu l'affaire du mari de Nancy Pelosi, la leader des démocrates à la Chambre. Son mari est agressé par un gars dans la maison à San Francisco de la famille. Il cherchait Mme Pelosi. Il est armé d'un marteau. Puis on découvre au fur et à mesure que ce gars-là a des problèmes sérieux de santé mentale, évidemment. S'abreuve à toutes les théories du complot, QAnon et tout ça. Et là où c'est particulier, c'est que Elon Musk, qui vient d'acheter Twitter, qui dit qu'il veut faire un certain ménage, qu'on peut pas dire n'importe quoi, en réponse à un tweet d'Hillary Clinton, a laissé sous-entendre, en citant une espèce de torchon qui est reconnu pour faire des fake news. Entre autres, il avait dit qu'Hillary Clinton était morte, puis c'est un sosie qui l'a remplacé au débat avec Trump. Ça vous donne un peu l'idée de la crédibilité de la source en question, le Santa Monica Observer. Alors lui, il prétend que, on sait peut-être pas tout, la rumeur, c'est que M. Pelosi était en état d'ébriété, qui avait recruté un prostitué mâle pour des activités homosexuelles, puis que la chicane aurait éclaté, puis que l'autre l'aurait frappé. Alors, il n'y a rien, pardon, qui indique ça. Pardon. Au contraire, rien du tout. Et pourtant, M. Musk a publié ça avec son aura puis l'espèce de capacité qu'il y a à ce que ce message-là soit partagé. Message qui, depuis, a été annulé.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin,
celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan.
Marc le disait il y a quelques instants, il y a moins de gens sur les routes aux extrémités de la semaine, le lundi et le vendredi. Par contre, mardi, mercredi, jeudi, on l'a vu la semaine dernière, facilement 45 minutes d'attente. C'est donc la journée 1 de ce chantier. Et beaucoup de gens ont regardé ça depuis les dernières semaines en se disant, modifier un peu nos façons de se déplacer. Télétravail encore ce matin. Je fais le point avec la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault. Madame Guilbeault, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan.
Qu'est-ce que vous savez de ce qui se passe sur le terrain ce matin, sur le flot de véhicules, sur les espaces de stationnement incitatif? Qu'est-ce que vous avez comme info?
Oui, ben j'arrive de notre centre intégré de gestion de la circulation, là où on a tous les écrans puis on surveille l'entièreté du réseau avec une attention particulière, bien sûr, autour du tunnel. Puis l'information que j'ai à date, honnêtement, c'est un petit peu plus long que ça l'était. Mais tu sais, faut se rappeler aussi que les installations qui sont en place dans le tunnel nord, le tunnel pour accéder à Montréal, donc les deux voies, on les avait déjà depuis lundi dernier. Donc les gens étaient habitués. En fin de semaine, on a fermé le tunnel sud et là aujourd'hui, on a la troisième voie, même le tunnel nord, là pour traverser sur la rive sud. Bref, en ce moment, vous voyez, et là, c'est live, là, ce qu'on me dit. Donc, 30 minutes à partir de la 40, 23 minutes entre l'échangeur Anjou et le tunnel. Et donc, la semaine dernière, on avait à peu près 15 minutes. Et là, on serait autour de 25 minutes pour la même zone. Donc, en ce moment, 6 minutes à partir de l'échangeur 20-30. Donc, en ce moment, les temps sont bons. Mais, il est quelle heure, là? 7h30. Alors, peut-être que ça va se corser un petit peu plus. Mais pour l'instant, je vous dirais que c'est relativement encourageant. Mais vous l'avez dit, puis moi, je l'ai dit souvent la semaine dernière, là, souvent, on télétravaille plus les lundis, les vendredis. Donc, on va voir demain, on va voir mercredi, on va voir jeudi. Mais pour l'instant, ça se passe relativement bien. Encore que je ne veux pas minimiser le désagrément et je pense qu'il y a encore beaucoup de potentiel. Vous parlez des stationnements incitatifs, là. Ils ne seraient pas tellement utilisés en ce moment, ceux de la Rive-Sud. Donc, j'en profite pour relancer l'appel aux gens, ceux qui, peut-être aujourd'hui, restent à la maison, mais qui vont se déplacer éventuellement cette semaine.
Et le vrai test, ça va être cette semaine, un peu plus tard.
C'est ça. Ben pour ceux qui, peut-être, c'est ça, aujourd'hui, se déplaceront pas, mais vont le faire plus tard cette semaine, allez sur notre site Internet, ministère des Transports, Mobilité durable. Il y a la section tunnel avec l'ensemble des mesures à votre disposition pour trouver une alternative à l'auto-solo.
Bon. Le premier ministre était ici la semaine passée, puis il dit qu'il faut que le gouvernement soit exemplaire en ce qui a trait au télétravail.
Oui.
J'ai plein d'employés de l'État, du Conseil du Trésor, je peux vous faire la liste, là, qui se font refuser le télétravail par l'employeur. Qui croit? Le politique qui dit c'est important, puis on donne l'exemple, ou la bureaucratie qui dit non au télétravail?
Mais la politique de télétravail en ce moment, là, avant la fermeture du tunnel, indépendamment de la réfection du tunnel, elle était déjà de 2 jours/semaine de présence au bureau, 3 jours de télétravail. Évidemment, là-dedans, il y a des spécificités, puis selon la mission, puis le type de service essentiel ou non.
Non, mais si on comprend ça, là, mais c'est ça. Moi, ce que je vous dis, il y a une résistance dans la machine à ramener ça à une journée de présentiel, des emplois qui, pendant la pandémie, étaient faits en télétravail. Puis on dit, ben là, c'est pas possible. Je vous le dis, là, dans la patente gouvernementale, il y a de la résistance.
Mais il y a 2 choses là-dessus. La première chose, c'est que ça peut pas être du mur à mur. Et vous voyez, j'ai encore parlé à ma collègue du Conseil du Trésor tout à l'heure, très tôt ce matin, là, parce que je disais la semaine dernière, elle et moi, on en discute souvent. Elle est en train de voir avec ses fonctionnaires et tout ça, la façon dont on peut peut-être avoir plus de flexibilité que ce qu'on a déjà, toujours dans le respect puis dans la cohérence, je dirais, de la mission des organisations. Il y a des endroits où on peut pas télétravailler, il y en a d'autres où on pourrait peut-être plus télétravailler. C'est ça qu'elle est en train de regarder. La deuxième chose, c'est qu'il y a l'équilibre à trouver aussi avec la revitalisation du centre-ville. Oui, allez-y.
Pourquoi on fait ça maintenant quand ça fait 3 ans qu'on sait qu'on va avoir un bordel potentiel? Comment ça se fait qu'on est encore en train de se demander si c'est faisable ou pas de le faire?
Ben c'est pas qu'on le fait maintenant. Je vous disais, la politique de télétravail existait déjà comme ça à 2 jours semaine. Tu sais, déjà quand t'as 3 jours de potentiel télétravail chez toi, t'es quand même capable de dégager le réseau 60% du temps là. Donc il y a déjà une possibilité. Puis ce qu'on
non,
a dit toujours, c'est qu'on va s'ajuster au fur et à mesure.
Mais vous dites que Mme Lebel est encore en train de regarder, puis est en train de voir avec les gens de son ministère. Comment ça se fait que c'est pas déjà fait?
Ben, c'est pas déjà fait. C'est parce que, comme je le dis depuis la semaine dernière, moi, c'est sûr que ça fait une semaine que je suis là. Donc, bon.
Oh oui,
mais c'est ça. Donc, on prend les choses en charge avec mes collègues, comme ça avait déjà été planifié aussi. La politique de télétravail existait déjà indépendamment du tunnel. Mais ce qu'on fait, puis c'est vrai pour tout ce qu'on fait aussi avec l'industrie du camionnage, c'est vrai avec tout ce qu'on va faire sur les mesures de transport collectif, etc. Il existe en ce moment une pléiade de mesures, un éventail de mesures, et ces mesures-là sont appelées à évoluer au fur et à mesure. C'est une évidence. Ce qu'on se dit aujourd'hui, le 31 octobre, là, ça risque de plus être la même chose le 22 décembre. Là,
oui, mais
c'est pour ça qu'il faut faire une vigie puis s'adapter en conséquence de ce qu'on va observer sur le réseau.
Ça, je comprends ça. Mais avouez que pour un automobiliste ou un citoyen bien ordinaire, là, d'entendre le président de la Chambre de commerce dire « Écoutez, on pourrait peut-être essayer d'interdire l'auto solo », d'entendre le chef du Parti québécois dire « Mettez le transport gratuit dans l'Est de Montréal », d'entendre, c'est comme si la semaine passée, il y avait un paquet de gens qui, à un moment donné, avaient ouvert les yeux. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de com entre le ministère ou Québec et les citoyens quand on voit ce genre d'intervention? Comment ça se fait qu'on parle de ça maintenant? Je sais que vous venez d'arriver, là, mais...
Non, mais c'est parce que faut nuancer ces propos-là. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui s'explique. Tu sais, des fois, tu sais qu'il y a un problème, quelque chose va arriver, mais c'est lointain, et t'es pris dans ton quotidien et tout ça. Peut-être que quand c'est pas suffisamment proche de la date, là, c'est pas assez imminent, ben ça reste comme relativement lointain. Puis bon, tu sais que ça va arriver, mais tu y penses pas au quotidien. Mais il y a depuis une semaine, effectivement, en tout cas depuis que moi je suis là, on ne parle que de ça parce qu'on se rend compte que ça s'en vient. Donc c'est pour ça que vous me dites un problème de com. Moi, en tout cas, j'ai fait presque ça des com la semaine dernière, en plus évidemment de gérer les choses sur le fond là. Mais je voulais m'assurer que les gens comprennent bien que, contrairement à peut-être l'impression qu'on peut avoir, il y a personne qui s'est réveillé le 11 octobre à 20 jours. Mon ministère là, ça fait des années qu'ils planifient ce chantier-là avec RLF, avec les gens du consortium
mais
qui
même
font les
la
travaux,
ville de Montréal,
avec les partenaires,
même
avec la ville. Ça fait des mois qu'on planifie ce chantier-là.
La responsable de Montréal a dit que les communications n'étaient pas toujours parfaites entre la ville de Montréal et le ministère des Transports. Je l'invente pas, là, Mme Mazerolle qui a dit ça.
Ouais, ben moi je parle avec Madame Plante, puis tu sais j'ai toujours eu une excellente relation de travail avec elle à la sécurité publique, puis à date ça se transpose au transport. Je l'ai rencontrée la semaine dernière, elle nous a envoyé des propositions. On travaille de manière très constructive, puis encore une fois tout ce qu'on a fait, puis les mesures qui sont en place en ce moment, que ce soit les mesures d'incitation au transport collectif, de gratuité, les voies réservées à Montréal sur la Rive-Sud, les stationnements incitatifs, ces choses-là se sont faites avec les municipalités, avec les sociétés de transport. Donc on peut pas dire on n'était pas au courant et tout ça alors qu'ils ont participé eux-mêmes à l'élaboration des mesures.
Mais quand...
Puis moi je vais vous dire, je pense pas, comment je pourrais dire, tout le monde je pense a été peut-être stressé avec l'arrivée du chantier. Bon, il y a peut-être des gens qui se disent là, on a-tu fait assez, on n'a pas fait assez, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? En ce moment, je pense qu'on est arrivé à un stade, puis là, on est lundi matin, là. On va l'observer. Tout à l'heure, moi, à 10h30, je retourne au centre de gestion de la circulation. On va avoir le fameux débriefing qu'on va faire après chaque heure de pointe 2 fois par jour. Il va en avoir un autre vers 18h30 ce soir. Et là, on va les avoir, les données, on va avoir les faits, on va voir quels sont les problèmes et on va adapter les mesures okay. En conséquence.
Vous avez vu le titre de la presse en fin de semaine, le fameux comité sur la mobilité qui s'est réuni une fois dans les 4 ou 5 dernières années. D'abord, vous faites partie de ce comité-là depuis que vous êtes nommé ministre des Transports.
Oui.
Est-ce que c'est normal qu'il n'y ait aucune réunion? Je parle pas des gens qui opèrent là, dans le détail, mais que la structure, le comité directeur se soit vu une fois en 5 ans.
Ben Mobilité Montréal, faut peut-être en très très résumé expliquer ce que c'est. Là, ça a été créé en 2011. Dans la foulée, il y avait eu une chute de paralume dans le tunnel Ville-Marie, des travaux aussi en même temps sur le pont Honoré-Mercier. Et là, on avait créé Mobilité Montréal. Et l'objectif de Mobilité Montréal, c'est d'avoir une planification, je dirais, la plus intégrée possible des travaux, des entraves, des chantiers dans la grande CMM. Donc pas uniquement à Montréal, puis pas uniquement le tunnel. Depuis 2011, et il y a 6 comités là-dedans. En fait, il y a 4 comités, 2 sous-comités. Il y a un qui est le comité directeur, effectivement, qui ça essentiellement c'est des élus qui se rencontrent, donc tous les élus,
non,
les principaux élus de la CMM, ben, qui se sont rencontrés
une fois en
2020.
Non, mais sérieusement.
Mais on rit, mais c'est pas.
Non, mais vous riez parce que ça en est drôle quand même.
Non, mais laissez-moi terminer.
Abolissez-moi ça, ça sert à rien.
Non, mais c'est pas que ça sert à rien. C'est ça, le comité directeur, c'est les élus. Bon, mais indépendamment de ça, il y a 5 autres comités. Et cette année, en 2022, il y a eu 38 rencontres. Il y a eu 38 rencontres de Mobilité Montréal, essentiellement du sous-comité qui fait la planification des entraves de fin de semaine et du comité technique. Et ces comités-là se rencontrent très régulièrement, comité technique, troisième mercredi du mois. Et aux deux semaines, l'autre comité. Prochaine réunion de mai.
On va se regarder pour, on va essayer de pas rire. Le comité qui regroupe les élus, le leadership, ne se voit pas, ne se rencontre pas. Convaincu que M. Bonnardet est allé à aucune rencontre, Robert Poitier est au transport, puis il m'a dit que ce comité-là était en dormance. Ça veut dire qu'il se passe rien.
Moi, je pense qu'indépendamment des rencontres entre élus...
Est-ce que c'est utile ou pas? Si c'est utile, pourquoi il n'y a pas de réunion? Puis si c'est pas utile, pourquoi ça existe encore?
Bien, on pourra l'évaluer. Comme je vous dis, il y a 6 comités. Il y en a un de ceux-là sur les 6 que c'est les élus qui se rencontrent. Bon, est-ce qu'on a besoin que des élus se rencontrent absolument pour que le reste des gens, les doers, si vous me passez l'expression, puissent faire avancer les choses? Savez-vous, une donnée intéressante que j'ai su, 800 entraves qui ont été évitées en 2022 sur le territoire de la CMM grâce à ces comités-là, grâce aux gens qui gèrent effectivement les chantiers qui sont coordonnés puis qui ont évité, tu sais, des affaires de fous là que vous seriez le premier à dénoncer lundi matin, là, en fin de semaine.
Voulez-vous que je fasse la liste à un moment donné de ce qui s'est improvisé comme chantier puis que la ville a été confrontée à ça par la Commission des services électriques, par Hydro-Québec? Moi, je ferai pas une guerre de chiffres, là. Mais je fais juste regarder le fait qu'il n'y a pas de rencontre, puis je regarde pour le fun l'organigramme ce matin. Pas surprenant dans le Journal de Montréal que ce soit le bordel avec tout ce qu'il y a comme intervenant. T'sais, c'est épeurant quand tu lis ça. Tu dis, c'est sûr qu'ils ne savent pas qu'un a fait un chantier. L'autre est... Puis là, on a les chantiers privés. Là, vous êtes promené un peu autour, c'est agréable.
C'est pas juste les villes, là, dans Mobilité Montréal, là. Tu sais, t'as Hydro, t'as Vidéotron, t'as plein de monde qui ont tout le temps des chantiers à faire, les sociétés de transport, de l'entretien, qui ont des travaux à faire. Fait que c'est pour ça que ça prend une instance, je pense, qui met tout ce monde-là ensemble, parce qu'il faut être capable de savoir
si... Mais ce que vous me dites, dans le fond, là, quand vous parlez de la mobilité, que de réunir des élus, c'est inutile.
C'est pas ça que je dis.
Mais oui, c'est ça que m'avait dit.
Je dis qu'indépendamment de la fréquence des rencontres des élus, les autres sous-comités, entre autres celui de la planification des entraves majeures, peuvent se rencontrer, puis c'est lui qui s'est rencontré le plus, là, 24 fois cette année.
OK. Mais quand vous avez un méga chantier, comme celui du tunnel, et que les élus ne se réunissent pas au moins une fois, deux fois ou trois fois, je répète, là, ou c'est inutile, puis on devrait l'abolir, ou il y a quelque chose qui marche pas, là.
Mais écoutez, là, moi, je vais parler pour moi. Parce que aussi, tu sais, est-ce qu'on a besoin d'avoir une rencontre officielle taguée, entre guillemets, Mobilité Montréal des élus? Moi, je vais prendre mon exemple personnel. Depuis 10 jours, là, je leur ai parlé à tous les élus, là. Oui, puis je suis convaincue que mes prédécesseurs, François et Chantal, ont parlé très souvent avec Mme Plante, ont parlé très souvent avec Mme Fournier de Longueuil. Donc, tu sais, les élus, on se parle. Je vois pas comment un élu pourrait ne pas parler à un autre élu dans ce contexte-là.
Non, mais encore une fois, pourquoi on a une structure qui s'appelle un comité directeur s'il y a personne qui se voit là-dedans en réunion? Ça donne quoi? C'est une autre patente à gosse créée par le gouvernement pour nous faire croire qu'on...
Non, mais ce que je veux dire, c'est que ces élus-là sont probablement parlé quand même, mais pas dans le contexte d'une réunion formelle. Mais regardez, moi, je peux pas, là, tu sais, parler.
Non, mais vous avez un conseil des ministres, vous vous parlez entre ministres pareil, mais vous sentez le besoin de vous réunir au conseil des ministres, par exemple?
Ben oui, exactement. Puis je peux vous dire que ce chantier-là, on en a parlé une fois puis un autre, à la fois au conseil des ministres, puis dans nos comités ministériels parallèles de... Bref, tout ça pour dire que... Puis là, on est live en personne, fait qu'on se voit en plus, c'est pour ça que... Mais non, c'est pas que je suis tannée, c'est que je pourrais dire... Des fois, je trouve qu'il y a quelque chose d'ingrat, puis je comprends que la perception... Mais je trouve que des fois, ça peut être ingrat de résumer quelque chose à peut-être une affaire de comité directeur qui s'est rencontré ou non, alors que le comité des gens qui font effectivement le travail se sont réunis très souvent, puis qu'on en a évité des entraves que vous auriez été probablement le premier à dénoncer parce que ça n'aurait pas eu de bon sens de fermer deux affaires en même temps, puis bon. Alors, tu sais, moi, je veux saluer le travail de nos équipes. T'sais, en ce moment, je pense qu'on a besoin de tous travailler ensemble. Les gens, faut qu'ils comprennent qu'on en a un plan, que ce soit au ministère ou avec les partenaires. Et moi, j'ai bien l'intention qu'on fasse fonctionner ce chantier-là dans la réalité des choses. Et c'est ce que je fais avec tout le monde. Puis tout le monde travaille de manière constructive.
OK. Comment vous avez trouvé, la signalisation pour venir à Montréal dans les derniers jours?
J'étais là la semaine dernière. J'ai dû retourner à Québec. Je suis revenue hier. Et honnêtement, ça s'est très bien passé. C'est sûr qu'hier, j'ai pris la 20. Tu sais? Et puis, j'ai pris le pont Jacques-Cartier. Justement, je voulais voir, est-ce que c'est commode de prendre le pont Jacques-Cartier comme alternative? Ça s'est très bien passé. En général, je prends la 40 quand
Allez-vous revenir un matin, je sais pas, mettons, là, genre début décembre.
Mais oui, c'est ça, oui.
En plein air de pointe, voir, tiens, avec quelques flocons de neige, puis...
Ouais. Oui, oui, oui. Okay. Non, c'est ça, exact. Ben oui, ben moi, je vais être très, très, très présente à Montréal. Je me montréalise, moi.
C'est vrai?
Ben oui. Ben c'est parce qu'avant, j'étais ministre de la Capitale-Nationale, donc ça me retenait dans divers événements, puis j'ai adoré cette fonction-là. Mais maintenant, je vais être très présente à Montréal. Et à Québec aussi, on a des gros projets aussi à Québec. Un tunnel à chaque place, disons.
Oui, je sais. On sait qu'il va se faire, peu importe ce que les études vont dire. Si j'ai compris votre collègue Bernard, l'autre jour, à Tout le monde en parle, c'est ça qu'il a dit.
Bon. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Les études vont être rendues publiques. Quand elles vont être disponibles, 2023? Ben, je présume que oui. Je l'ai, parce que là, on siège pas, donc je l'ai vu au Conseil des ministres. Et, ben, vous savez qu'il demeure dans Louis Hébert, Bernard, donc je suis en plus sa députée.
En plus?
Mm-hmm. Demeure tout près de chez moi.
Il n'a pas laissé beaucoup de place à sa députée. OK, bonne journée. Là-dessus.
Bonne journée.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute.
J'ai eu deux surprises en fin de semaine en voyant ce reportage dans le Journal de Montréal sur les différences de prix entre supermarchés et des fruiteries. La première surprise, c'est évidemment l'écart. Quand vous dites que vous avez deux produits identiques avec des différences de 40%, là, deux sacs de radis, c'est la même marque, c'est la même chose, la même quantité. Un sac de raisin rouge à 9,42 chez Métro, la fruiterie à 4,82, puis je pourrais faire une longue liste. Je comprends que l'échantillonnage est peut-être pas parfait là, sur le plan scientifique, mais il y a demeure pour moi qu'il y a des différences majeures. Deuxième surprise, c'est ça a l'air que tout le monde est au courant, puis ça a l'air que c'est normal qu'on paie plus cher ces produits-là à l'épicerie. Pierre-Alexandre Blouin est le PDG de l'Association des détaillants d'alimentation du Québec. Monsieur Blouin, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Bref, vous représentez des joueurs comme Métro puis aussi des plus petites bannières, là, je comprends bien.
Oui, ben nous représentons des propriétaires de différentes enseignes et également des magasins indépendants qui peuvent être des fruiteries, des fromageries, des boucheries, différents commerces spécialisés.
OK. Comment on explique des différences comme celle-là entre une fruiterie, par exemple, 4,40, pas de nommée, et Métro, puis des différences importantes de 35, 40, puis même plus, pour cent?
Mais il y a plusieurs facteurs qui déterminent la stratégie de prix d'une enseigne ou d'un détaillant indépendant. Mais c'est certain que quand tu es un spécialiste en fruits et légumes et que tu attires les clients spécifiquement avec ça, il faut que tu sois très compétitif. Sinon, ben les gens vont pas se déplacer chez toi pour aller faire des achats. Donc, l'objectif, c'est d'attirer l'attention des clients, de les attirer avec des prix intéressants sur une vaste variété de produits. Mais c'est certain que quand on regarde un commerce conventionnel, comme un Métro, comme d'autres types de bannières, il faut avoir une variété puis un panier moyen qui va être compétitif. Donc, c'est comme si on comparait vraiment des pommes avec des poulets cuits.
Ouais, mais ça, je veux bien, là, mais j'ai comme un bémol. C'est-à-dire que je peux comprendre des différences de prix, mais j'ai de la misère à comprendre des différences de 30 puis de 40. Autrement dit, je ne devrais jamais acheter fruits et légumes chez Métro.
Ben, je pense pas que c'est la. Je pense que les consommateurs sont assez à même de voir les différences aussi dans la variété et dans la qualité parfois des produits. C'est une question de disponibilité, d'offre, de flexibilité, de vélocité. Lorsqu'on est un détaillant spécialisé en quelque chose, comme la fruiterie 440, on a une très forte vélocité de produits. Donc, les produits vont tourner très vite en tablette. On risque pas de garder le même item pendant une journée à deux journées. La durée de vie du produit est donc moins préoccupante pour ce détaillant-là, donc il n'y aura pas de perte en comptoir. Par contre, quand on est un détaillant généraliste puis qu'on a moins de volume,
c'est
important de provisionner avec des produits qui vont pas se perdre dans nos tablettes avant même que vous les ameniez chez vous.
Je comprends, mais on s'entend que Métro doit avoir un pas pire de pouvoir d'achat quand il négocie ses approvisionnements.
Tout à fait, c'est vrai.
OK, puis normalement,
donc,
on devrait en profiter.
Métro doit s'assurer de pouvoir fournir l'ensemble de ses magasins avec les mêmes produits en respectant les mêmes prix. Donc, il y a tout cet aspect-là. Je vous donnerai un exemple. Écoutez, moi, j'ai des membres qui m'ont appelé suite à l'article, puis j'étais un petit peu perplexe parce que, justement, il y a différents grossistes qui leur offrent des lots de produits qui peuvent être disponibles. Quand on approvisionne 4 ou 1 magasin, évidemment, ben on peut décider de prendre ce lot-là puis de se fournir avec lui. Par contre, si on est Métro puis qu'on a 300-400 magasins à fournir, on peut pas aller chercher ce lot-là.
Ouais, mais en même temps, comme je disais tantôt, on est capable de négocier des ententes à l'année puis du volume. Mais je comprends votre logique de dire ils sont spécialisés en quelque chose, ils vont offrir un prix. mais j'ai de la misère à avoir deux sacs de radis pareils avec 40% d'écart. J'ai de la misère à avoir des sacs de raisins en même quantité avec 48% d'écart. Le brocoli a l'air à se ressembler pas mal, 37%. On parle pas de 10% de différence, là. C'est beaucoup.
On pourrait prendre chacun des items, les comparer spécifiquement, mais il faut regarder l'ensemble du panier. Le ratio de fruits et légumes dans une épicerie traditionnelle, c'est entre 12 et 16. Vous vous doutez que chez Fruiterie 440, on doit être plus à 60-80% fruits et légumes.
OK, mais donc, M. Blouin, c'est correct, là, mais d'abord, je reprends ma question de tantôt, là. Ouais. Si c'est pas si important que ça, ou trop important, cet aspect-là de l'épicerie, le consommateur devrait aller ailleurs que chez Métro ou une bannière. S'il y a du temps pour le faire, pourquoi pas? Il va trouver des meilleurs prix ailleurs.
Si le seul argument est le prix, c'était le seul argument du consommateur et non, par exemple, la qualité du produit, la capacité de le conserver pendant un certain temps, vous auriez des fruiteries 440 dans chacune des villes et villages du Québec. La réalité, c'est qu'on a une offre qui est variée avec différents types de magasins qui vont y aller avec une offre de produits qui va être variée. Si on faisait un panier moyen de différents items dans un supermarché.
Non, mais je parle pas d'un panier moyen de différents.
On n'aurait pas le même prix.
Mais non, mais je parle pas de différents. Moi, je vous parle d'une niche spécifique. Moi, là.
Tout à fait.
Je regarde Métro, là. Mettons que j'achète ce que j'ai besoin. Mais moi, je lis ça, là. Puis j'achète pas un fruit et un légume chez Métro, mais à l'acheter ailleurs. Parce que c'est moins cher.
Ben, vous avez différents prix de produits qui peuvent tomber en spécial également. Puis vous faites le choix d'aller chercher une variété de votre panier. Je pense que tous les consommateurs n'ont pas non plus le temps, malheureusement, d'aller faire les courses dans 17 magasins différents selon les différents produits.
Il ne s'agit pas d'en faire 17, là. On peut en faire deux, puis un boucher, peut-être trois. Ça se fait assez bien, là.
Ben, c'est ce que les gens font. Je pense pas qu'il y a de cachette-là. Il y a des stratégies. Il y a aussi l'enjeu
Comprenez-vous que ça ajoute au scepticisme sur le fait que depuis que l'inflation a repris l'ascenseur, puis que là, le bureau de la concurrence a une étude à faire sur, disons, est-ce que les bannières en ont mis plein leur poche pendant les derniers mois, ça crée chez le consommateur, appelons ça, un peu de méfiance.
Ah, ben, écoutez, c'est certain quand on a des articles qui sont, excusez-moi, un petit peu raccourcis au niveau de l'analyse des différents produits. Écoutez, on peut pas du jour au lendemain avoir un seul argument lorsqu'on fait les achats puis l'approvisionnement de produits. Sinon, vous allez nous inviter dans deux semaines pour qu'on vous parle de gaspillage alimentaire parce que les produits sont en train de périmer dans les comptoirs avant même qu'on vous les vende. L'apparence.
Mais de quoi vous parlez? Je comprends rien de ce que vous dites. Je comprends pas ce que vous dites.
Quand on achète des produits de deuxième qualité, par exemple, sur certains items, ces produits-là vont durer moins longtemps en tablette. L'ennemi numéro un dans nos
stocks. Mais qui achète des produits de moins bonne qualité?
Dépendamment des lots, on peut avoir différentes qualités de type de produits.
Non, mais qui les achète? C'est ça ma question.
Ben, un peu tout le monde. C'est juste une question de vélocité. Comme je vous dis, si on achète un produit, qu'on sait qu'on va le vendre d'ici, disons, 24 à 48 heures, on peut se permettre de jouer avec un produit qui est peut-être plus près de sa péremption. Donc, qui va être moins valide plus longtemps. Mais c'est la réalité. Puis les approvisionnements, je voudrais les grossir. Ben, je pourrais vous répondre là-dessus.
OK, mais quand je vois deux sacs de radis pareils, là, la même fabricant, la même affaire.
Un item sur le panier.
Ouais, mais je vous dis pas que c'est une enquête hyper scientifique là avec toutes les données. Je vous dis juste qu'il y a assez d'éléments. Puis il y a personne qui a l'air à dire là que les écarts de prix on sont irréalistes ou faux là. Ça a l'air d'être pas mal ça sur un paquet d'items assez variés là, je trouve.
On est spécifiquement dans une catégorie de produits. On pourrait faire le même genre d'analyse sur les viandes ou sur différentes autres catégories de produits, l'épicerie sèche. Évidemment, il y a différentes stratégies de prix. Il y a des gens
mais
qui vont
dites-moi donc, parlez-moi de ça. D'après vous, est-ce qu'il y a des grosses différences entre le boucher chez Métro puis le boucher indépendant?
Il va y avoir des différences sur différents types de produits. C'est évident, c'est la saine concurrence. Il n'y a pas de prix qui sont fixés sur ces produits-là. C'est l'offre et la demande qui va venir gérer la capacité d'un détaillant de faire un produit à un meilleur prix versus l'autre.
OK, ben, c'est votre point de vue. Merci beaucoup, M. Blouin.
Ça fait plaisir.
Au revoir, Pierre-Alexandre Blouin, le PDG de l'Association des détaillants en alimentation du Québec. 5-10%, on peut comprendre, mais 35-40%, je trouve que l'écart est quand même assez spectaculaire.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici,
très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Bon, encore une fois, il y a un arbitre qui, de toute évidence, s'est fait attaquer par un parent lors d'un match de football collégial présenté à Saint-Hyacinthe. Et on sait que la Sûreté du Québec est intervenue. On dit dans le Journal de Montréal, entre autres, que le parent est quelqu'un de connu pour son agressivité. Des décisions controversées, ça a commencé par une engueulade, puis ça s'est terminé par des coups. Il paraît que l'arbitre a été même légèrement blessé. Le match a dû être annulé. Je vais en parler avec Gustave Roel, qui est le PDG du Réseau du sport étudiant du Québec. Monsieur Roel, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous savez d'abord de l'altercation? Est-ce que vous savez pourquoi ça a commencé? Qu'est-ce qui est arrivé?
Écoutez, on n'a pas énormément d'informations présentement. On sait qu'il y a une enquête actuellement. Donc, c'est clair qu'on va laisser la démarche de l'enquête se poursuivre. De notre côté, à nous, on a interpellé autant les dirigeants du cégep de Valleyfield que de Saint-Hyacinthe, les entraîneurs, la Fédération de football, qui régit également les officiels, et également le cabinet de Mme Charest dans cette situation-là. Pour nous, c'est, vous comprendrez, c'est une situation qui est fort déplorable, je dirais même inadmissible, qu'une situation de violence comme celle-là se produit sur un terrain d'un établissement d'enseignement.
OK, quand vous dites que vous avez interpellé tous ces gens-là, vous les avez interpellés pour leur dire quoi?
Dans le fond, c'est pour voir un peu où ils sont rendus dans leur démarche, que ce soit, par exemple, les entraîneurs pour avoir leur témoignage. Malheureusement, l'information qu'on a, c'est que les entraîneurs étaient dans le vestiaire à ce moment-là. Au niveau de la Fédération de football, c'est pour voir aussi comment les officiels, les autres officiels, qu'est-ce qu'ils ont vu, c'est quoi les informations qu'on pourrait avoir dans ce sens-là. Au niveau du cabinet de Mme Charest, c'est qu'on était déjà dans un processus pour travailler sur tout ce qui est rétention, formation des officiels. Donc, c'est clair que c'est pas le genre de situation qui va encourager les officiels à être sur le terrain. Vous savez, cette année, il y a une perte environ entre 20 et 40 des officiels, des bénévoles pour l'ensemble des disciplines sportives. Donc, ça nous préoccupe énormément.
Hockey Québec, la semaine dernière, a lancé cette campagne-là qui a plusieurs volets, mais un notamment qui porte sur l'arbitrage puis le respect des arbitres, souvent des jeunes qui décident de donner du temps là où ils sont payés quand même très peu, puis c'est pas une raison parce qu'on est frustré de les engueuler puis même d'aller jusqu'à porter des coups. Est-ce qu'au football puis est-ce qu'au niveau collégial la tension est à ce point forte entre deux équipes quand le pointage est serré pour que ça dégénère comme ça?
Vous savez, la situation qui touche de samedi, ce qui est malheureux, c'est que c'est justement pas ni des joueurs ni des entraîneurs qui ont été impliqués dans cette situation-là. La réaction des deux équipes, selon les dires de certains officiels pour lesquels on a commencé à avoir des informations, est impeccable. Donc, c'est ça qui est malheureux. C'est que, vous savez, vous m'avez rencontré à peu près il y a 2 ans, en période de pandémie, dans laquelle plus de 220 000 étudiants athlètes souhaitaient pouvoir reprendre le jeu. Oui. On a été arrêtés pour des raisons sanitaires et tout ça. L'année passée, il y a un arrêt de 2 mois forcé pour tout le monde. Les jeunes, ce qu'ils voulaient, c'est se retrouver sur un terrain, avoir des occasions positives. Malheureusement, l'occasion positive a été arrêtée par des personnes externes à ce jeu-là. On a beau faire le code d'éthique, par exemple, mais on fait aussi de la formation pour plus de milliers d'entraîneurs à travers le Québec en lien avec la gestion, justement, du code d'éthique. Malheureusement, cette situation-là, pour moi, là, ça fait 8 ans maintenant que je suis au réseau du sport étudiant, c'est une première fois que j'ai une situation comme celle-là, de cette violence-là. Des violences verbales, il y en a, et c'est pour ça que le travail qui est en train de se faire, notamment, surtout le volet de la promotion, rétention des officiels, en fait partie. Mais là, on passe à une coche complètement différente.
Merci, monsieur. Bonne journée. Gustave Roel est président, directeur général du réseau du sport étudiant au Québec. Bon.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute.
Bon, ben, c'est absolument incroyable, là. Félix Auger-Aliassime qui remporte un troisième tournoi en autant de semaines après sa victoire en Suisse.
Oui, il remporte la finale du tournoi de Bâle en deux manches de 6-3-7-5 contre le Danois Holger Rune. Ça s'ajoute à ses victoires à Florence et Anvers et à sa victoire à Rotterdam. Alors, ça lui fait 4 victoires en 2022. Faut savoir que, auparavant, il a dû attendre encore, avant de savourer ses premières victoires parce qu'il avait atteint plusieurs fois la finale des tournois auxquels il participait. Et finalement, en 2022, ça a débloqué. Ça lui permet de grimper au 8e rang du classement de l'ATP et en 6e position au classement en prévision des finales de l'ATP qui auront lieu à Turin. Et pour parler de ses performances, on va aller retrouver Sylvain Bruneau, entraîneur et chef du tennis féminin chez Tennis Canada. Sylvain Bruneau, bonjour.
Oui, bonjour.
Est-ce qu'on peut dire qu'actuellement, au mois d'octobre, Félix est le meilleur joueur au monde?
Dans les conditions actuelles, sous court couvert, on peut dire que oui, avec c'est un mini-exploit quand même de remporter 3 titres consécutifs contre de bons joueurs au passage, et victoires contre Alcaraz, Nakashima, Korda, et ainsi de suite. Donc, probablement un prétendant sérieux, parce qu'on l'espère qu'il va se qualifier pour le championnat de fin de saison à Turin, qui regroupe les 8 meilleurs au monde.
Vous avez fait allusion au fait que c'était des tournois de tennis intérieur. J'ai entendu des gens dire que c'est peut-être un avantage parce qu'au Québec et au Canada, on est habitué de jouer à l'intérieur et c'est pas tout à fait les mêmes repères qu'à l'extérieur, là.
C'est un fait. C'est un fait. C'est un avantage pour les Canadiens. On s'appelle Milos Raonic aussi. Il jouait très bien en court couvert. Denis Shapovalov a remporté un seul titre aussi en court couvert. Donc, on a cette avantage, lorsque les joueurs sont en développement, de passer du mois de novembre au mois d'avril sous court couvert, ce qui est moins vrai pour les Espagnols ou les Sud-Américains, ça va de soi. Ceci dit, Félix joue bien sur toutes les surfaces. On l'a vu avoir de grands résultats sur terre battue, sur gazon, à l'extérieur, sur le dur. Mais définitivement, en court couvert, c'est vraiment des bonnes conditions pour lui.
Bon, j'aimerais que on parle d'un sujet. J'ai eu des courriels, moi, de gens, après ces deux premières victoires. On disait, ouais, mais vous soulignez pas le fait que ce sont des tournois ATP 250 et puis que c'est pas tout à fait la même compétition qu'un Master 1000 ou même un ATP 500. J'aimerais peut-être que vous nous aidiez un peu à faire la différence et à remettre ça en perspective, là.
Oui et non, dans le sens que effectivement, sur le circuit ATP, il y a des tournois de catégorie 250, 500 et 1000. Le tournoi à Montréal, par exemple, est un tournoi de catégorie 1000 qui normalement regroupe les tout meilleurs. Donc, les joueurs dans le top 20, on va en avoir 17, 18 qui vont être présents. Dans un tournoi de 250 qui offre moins de points ATP aux gagnants, aux finalistes, demi-finalistes et ainsi de suite, normalement, la compétition est un peu moins relevé, dans le sens que je pense que dans ces tournois-là, Félix était toujours première ou deuxième tête de série. Cependant, il faut dire, de jouer avec cette pression, d'être première tête de série, deuxième tête de série, je pense que c'est phénoménal ce qu'a réussi à faire Félix, de défendre toujours sa position contre des joueurs un peu moins bien classés, mais qui sont très dangereux. Korda, c'est un Américain qui est dangereux. Musetti, c'est un Italien qui joue très bien. Donc, oui, il a pas eu les victoires sur Nadal, sur Ruud ou Djokovic dans ces tournois-là. Cependant, victoire sur Alcaraz, mais quand même 13 victoires consécutives, c'est remarquable.
Mais je regardais le calendrier de l'ATP pour le mois d'octobre, par exemple. Bon, il y a beaucoup de tournois Challenger et il y a beaucoup de tournois 250. Des 500, il n'y en a pas tant que ça. Là. Puis les Master 1000, il y en a un cette semaine à Paris, mais non plus, il n'y en a pas tant que ça. Là.
Effectivement, et de toute façon, le tournoi qu'il vient de remporter, c'était un tournoi 500 à Bâle, ouais. Donc les deux premiers, c'était 250. Oui, il y a un tournoi 1000, et ensuite, il y a le tournoi de fin de saison à Turin. Je pense que Félix a décidé d'ajouter ces tournois-là à sa cédule, parce que je crois qu'il souhaite vraiment faire partie du championnat de fin de saison. C'est un honneur de faire partie de ce tournoi-là. Il faut être parmi les 8 premiers. Donc, on est dans un sprint final. Il y a l'Américain Taylor Fritz qui est pas très loin derrière au classement, le Polonais Urkash qu'on a vu bien jouer à Montréal. Donc Félix a bien fait les choses, il est allé jouer les tournois, il est allé remporter les tournois, il s'est positionné maintenant pour faire partie fort probablement de ce tournoi. Donc il a fait un choix tactique. Maintenant on espère qu'il sera pas évidemment trop fatigué là, pour le tournoi de Paris et Turin.
Bon, en parlant des finales de l'ATP, peut-être nous expliquer un peu, parce que tu as le classement de l'ATP, où là, il est huitième, et il y a un autre classement pour les finales de l'ATP, où là, où il est sixième. C'est quoi la différence entre les deux, et qu'est-ce qu'on prend en considération pour participer aux finales de l'ATP?
Alors, c'est des classements qui sont quand même assez similaires. On retrouve à peu près les mêmes joueurs aux mêmes endroits. Il y a une petite différence. Par exemple, le classement ATP, ben on connaît chacun des tournois durant l'année. Et si on fait la finale, si on fait la demi-finale, si on perd au deuxième tour, il y a des points qui sont attribués, comme on mentionnait plus tôt dans notre conversation, selon un challenger, un tournoi 250, 500 000 ou un grand chelem. Dans ce qu'on appelle la course vers le championnat de fin de saison à Turin, il y a un système de points qui est différent, qui n'est pas identique à celui de l'ATP, donc il peut avoir des variations. Et aussi, pour se qualifier pour le championnat de fin de saison, quelqu'un comme Djokovic, qui est plus loin dans la course, parce qu'il a joué moins de tournois, on sait pour quelle raison, il a remporté un tournoi du Grand Chelem, lui. Donc, il y a une place assurée. Donc, les politiques sont pas tout à fait semblables, et c'est ce qui explique que Félix, dans la course vers le championnat de fin de saison, son classement est un peu supérieur à celui de l'ATP.
Ben, Sylvain Bruno, merci beaucoup de ces explications.
Ça me fait plaisir.
Merci, merci, au revoir, bonne journée.
L'essentiel de Paul Arcand.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.